Croatie et l'Occident se rencontrèrent sur les rives de la Méditerranée. C'est alors que s'opéra la grande fusion des pensées ésotériques du monde de l'époque. Les religions et les philosophies se tendirent en quelque sorte la main. Mais quel en fut le résultat? Reportons-nous au 5e siècle de notre ère, à la Grèce. La glorieuse Athènes, cité de la pensée et des arts, allait disparaître. Une jeunesse nombreuse, venue de l'immense empire romain, se pressait dans les amphithéâtres. Dans ces vastes auditoires retentissait la parole d'un homme que d'aucuns vénéraient comme un dieu. Il semblait résumer en sa personne l'ensemble du développement des siècles passés en matière philosophique et religieuse. Cet homme se nommait Proclus. Il était le dernier d'une longue suite de sages. Sa doctrine néoplatonique représentait le résultat d'un travail quatre fois séculaire. Les historiens la désignent sous le terme d'école d'Alexandrie. C'est précisément pour la formation de ce courant de pensée que l'Orient et l'Occident avaient dû se découvrir par le canal d'une longue suite de sages. Cette école d'Alexandrie, fortement influencée par l'Inde, enseignait que la mythologie constituait l'écorce de la vérité et que le panthéisme en formait le cœur. Le panthéisme étant bien entendu la théorie de l'unité de la substance, d'après laquelle Dieu est tout. Les Alexandrins substituèrent peu à peu au Dieu vivant, cause de l'univers, une conception abstraite et stérile, un Dieu sans intelligence, sans liberté, sans pouvoir. Loin de conserver à l'homme une existence propre après la mort, tout l'effort de leur doctrine se porte au contraire sur la destruction de cette vie, dans les limites du possible et dès le présent. Les fables grecques, qui transportaient partout la vie et le mouvement, font bientôt place aux sombres conceptions de l'Asie. Les dogmes brahmes s'installent sous une autre forme dans la patrie d'Homère et de Platon. Tel est donc le résultat de la rencontre des pensées grecques et orientales. Le mouvement des esprits est immense. Il y a longtemps, la sagesse antique rassemble toutes ses forces pour s'affirmer. Son activité est passionnée car il s'agit en réalité d'une lutte bien rendue ardente parce que désespérée. Les représentants de ce monde mythique s'efforcent en vain de conserver toute leur brillante fiction à une vaste fable dont les conceptions profondes remontent à la nuit des temps, terre perdue, car la terre tremble sous leurs pas, l'avenir leur échappe. Pourquoi? Parce que dans une province lointaine, un être obscur, plus vieux qu'homme, qui lui n'a étudié ni la sagesse de l'Orient, ni la philosophie de l'Occident, est en train de changer la face du monde. Il se mit à prêcher à quelques pêcheurs du lac de Galilée. Parce que ces hommes, après avoir entendu cette simple phrase, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes », quittent tout pour le suivre. Ils ne seront pas les seuls. Parce que pour le citoyen de la ville de Tarse en Cilicie, c'est également parler de cette folie et la jette tout comme les autres aux quatre coins des cieux. Parce que la prédication de cette parole éclate de toutes parts une foi si vive, si brûlante, si pure en l'immortel avenir, qu'on court au martyr comme à une fête. Non pas pour fuir l'existence, mais pour cueillir la palme de l'avenir infini, sans fin. Rien ne peut arrêter le développement de la nouvelle doctrine. Le germe est devenu plante, la plante a pris les proportions d'un arbre immense. Le christianisme grandissant prive bientôt d'air et de lumière les dieux de l'Olympe. Le sol est vite jonché des débris des antiques conceptions dont la sève s'instille en lui tout naturellement. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde, dit la Bible? Il est difficile d'imaginer la lutte dont le monde est le théâtre. Que doivent éprouver les citoyens de Rome lorsqu'on leur demande de renoncer à cette ville superbe et orgueilleuse, ainsi qu'à ses splendeurs, de renoncer aux vastes cérémonies religieuses qui s'unissent aux grandeurs de l'État, de renoncer à son Capitole, voyant sur le poids des dépôts de l'univers, de renoncer à ces triomphes où les princes de la terre paraissent humiliés devant le peuple humblement devenu souverain. Quels doivent être les sentiments de ces hommes, de ces guerriers, de ces tribuns à qui l'on veut enlever jusqu'au souvenir de leur adolescence, des fêtes qui charmaient leur regard, de cette poésie enchantant leur imagination, et tout cela
pour une parole, un culte rude, trop simple, dont on ne peut dire si elle doit être plutôt folie pour les sages ou scandale pour les hommes sensés. Mais cette parole a vaincu. Les religions antiques de l'Occident s'anémient sous le barre de la simple raison et de l'exemple. Et on meurt cependant que le jour où, au lieu dit Golgotha, Jésus de Nazareth est mis en croix au milieu de femmes en pleurs, d'un apôtre, et du peuple qui raille tout son souffle. Et pourtant, le scepticisme n'est dans l'histoire des peuples qu'une crise passagère. L'esprit humain ne reste jamais très longtemps une page blanche. On y efface qu'à condition et par le fait même d'y écrire à nouveau. Ainsi parlait la sagesse des anciens devant les enseignements qui mettent en évidence l'amour de Dieu, la vie de l'homme et son immortalité. Ce fait proclame bien haut l'importance de la volonté divine par rapport à tout ce que l'homme peut penser, peut dire. Religieusement et philosophiquement parlant, l'Orient, l'Asie et l'Occident sont à nouveau séparés depuis 2000 ans, dans la mesure où nous ne leur apportons ce message qui a changé la face de notre monde à nous. La pensée philosophique qui se découvre au fond des multiples religions orientales n'a guère varié dans son essence. D'après elle, l'existence est un mal et il faut en sortir au plus vite. Cette vue du désespéré, cette aspiration vers le néant, ne représente peut-être pas l'ensemble de la croyance populaire, mais elle n'en marque pas moins toujours profondément le comportement de l'individu. Les peuples asiatiques continuent d'avoir des religions riches en allégories, en légendes, où domine l'idée de la vie. Cependant, s'ils ont comme nom leur matérialisme, la tendance habituelle de leur esprit est encore de faire de la matière une apparence et du corps une illusion. Il s'agit d'une sorte d'échappatoire, conscient ou inconscient. L'étroit espace qui sépare le berceau de la tombe est loin de leur suffire, car leur imagination se meut par les domaines indéfinis d'un monde divin. D'une certaine manière, ils rendent témoignage comme nom d'une puissante aspiration vers la vie sans fin, qui semble être le vœu, le cri de la nature humaine. Sous ce rapport, ils rentrent dans la règle commune. Mais la signification cachée de leur symbole, le sens profond de leur livre sacré et la philosophie de leur religion est une négation très précise de la bienheureuse éternité. L'idée que la vie personnelle est une sorte de phénomène passager et mauvais prédomine encore et toujours comme l'antithèse de la religion. Il ne s'agit évidemment pas de confondre ce qui est distinct et d'identifier aux doctrines affirmant le néant proprement dit à l'absorption dans le principe de l'univers tel qu'enseigné par le panthéisme. Toutefois, cette distinction importante en métaphysique disparaît totalement dans le domaine religieux. Le panthéisme tel que le caresse notamment Spinoza au XVIIe siècle dans l'éthique veut que Dieu soit une substance constituée par une infinité d'attributs. L'homme n'en connaîtrait que deux, la pensée et l'étendue. Dans ce monde entièrement déterminé, l'homme qui croit être libre se trompe. La sagesse constituerait à chercher à connaître la matière selon laquelle nos actes sont déterminés. Le panthéisme supprime donc la base même de l'ordre spirituel qui est entre autres le libre arbitre de la créature de Dieu. Or, il apparaît que le panthéisme soit le caractère prédominant des religions orientales et asiatiques. Ces religions conduisent à l'abstraction de la vie permanente, de l'existence des créatures. La question que chacun serait en droit de se poser est de savoir si, après tout, l'Orient et l'Asie ne nous ont pas influencés malgré l'enseignement du christianisme. Cela se révèle impossible. Après un examen même très succinct de ces différentes religions, un membre de l'Institut de France dit ceci à propos des croyances asiatiques dans leur ensemble. La vie n'est chez eux qu'un long tissu de misère et de douleur. Le salut consiste à ne jamais y entrer. Tel est dans le monde indien tout entier, dans quelque partie qu'on le considère et à quelque époque qu'on le prenne, la croyance déplorable que chacun partage et que professent le brahman et les bouddhistes de toutes les écoles, de toutes les sectes, de toutes les nuances, de tous les temps. Cette prétendue sagesse orientale semble être une lutte désespérée de la pensée contre la vie, un long effort de la raison pour se contraindre à effacer l'espérance. Que tout cela est-il dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est une espérance qui nous sauve. Une espérance qu'on voit n'est plus espérance qu'on voit, tout en espérant encore. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Ainsi, parlait la sagesse des anciens orientaux et asiatiques devant les paroles très simples dans les apôtres de Jésus. Ça met davantage encore en évidence la vie et l'immortalité, et ce fait proclame bien haut l'importance de l'Évangile dans le sujet qui nous occupe. La philosophie moderne reprend parfois les influences de Platon. Elle reconnaît mieux que les anciens la confusion des idées sur lesquelles s'appuie le matérialisme et les traces de l'enfer, la ligne infranchissable qui sépare la physiologie de la psychologie. Mais elle crée, hélas, une sorte de religion naturelle, minérale, laïque, et tente également de prouver que la raison seule suffit désormais à établir sur des bases solides nos espérances éternelles. Un peu de philosophie conduit à ces opinions. Un peu plus de philosophie en détourne. L'Esprit Saint nous avertit dans l'Écriture. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. De nos jours, les philosophes ont bel et bien et complètement rompu avec l'Évangile et même avec son action indirecte pour retomber dans le plus pur matérialisme. Le malheur des temps veut que parmi nous le bouddhisme et même l'islam retrouvent une faveur singulière. Depuis quelques années, nous voyons surgir des symptômes où l'on vante la métempsychose et la transmigration des âmes d'un corps à un autre. On prétend pouvoir expliquer comment le monde et l'homme peuvent se passer de Dieu, comment le genre humain peut refuser l'espérance de la vie éternelle, comment il est possible de remplacer l'immortalité de l'âme par l'immortalité des œuvres, comment l'on détruit Dieu pour y substituer l'homme, le seul être, dit-on, dans lequel l'infini prend conscience de lui-même. Que de balivernes, que de tromperies, que de gargarismes de mots. Dieu maintient ses promesses. Son Fils est mort pour nous sur la croix. C'est cela qu'il faut retenir. C'est à cela qu'il faut adhérer sans condition. Et c'est cela que vous faites.